dans la pratique de Vajrasattva avec contemplation, récitation, évocation, tout ça, par la force de la concentration, ben, il arrive de croiser des phénomènes, des sentiments qui apparaissent, des choses comme ça, de toutes sortes. On parle de 4 forces à établir pendant la pratique. La force du regret, la force de ne pas réitérer. Les regrets pour des choses dites négatives, des choses qui sont dues à nos impulsions, etc. Mais sans plus de procès, quoi. On prend la responsabilité, mais il ne faut pas se sentir coupable non plus, on est dans l'illusion, voilà. Mais on parle de la force du regret, la force de ne pas réitérer. La force du refuge, c'est-à-dire, finalement, ça incite à renouer avec notre gnose immaculée, notre Vajrasattva, et donc la force de la confiance, la force de la pratique et la force de la confiance. Donc quand on pratique, il y a déjà les empêchements, les difficultés habituelles, l'agitation, la torpeur, etc. Donc on connaît plus ou moins les remèdes. Quand on connaît une difficulté, il faut être heureux, c'est-à-dire qu'on est vigilant. Et comme on les détermine comme une difficulté, ça veut dire qu'on est bien parti sur une bonne base, on a un projet de se concentrer, on voit une difficulté, c'est une bonne chose. Donc s'habituer à ne pas plus commenter, c'est bien, c'est pas bien, il y a difficulté, j'interviens. Donc la vigilance le reconnaît, et ensuite on fait ce qu'on appelle le rappel, drenpa. Rappel, ça veut dire remet en mémoire, c'est pas un combat, c'est juste, pof, on tergiverse pas, etc. S'il y a une difficulté qui se rajoute, on fait un combat, c'est parce qu'on sait pas être simple. Et donc à nouveau, vigilance, si on est un peu crispé, etc., on n'arrive pas à faire ce rappel, eh bien, il faut trouver une bonne balance entre fermeté, détente, espoir, crainte. Ça, c'est les aléas de toute méditation. Une fois qu'on arrive à quand même à être un peu dans la pratique, sentiment de simplicité, d'honnêteté, voilà, on est prêt à toute surprise, il peut arriver qu'il y ait des réminiscences, hein, de choses qui viennent à l'esprit, que c'était pas clair, c'était pas sympa, ça a été un peu méchant, voilà. Ça peut arriver. Hein. Alors c'est pas une expérience en tant que telle, mais on peut s'en servir comme base d'expérience pour développer justement les 4 forces. Ces phénomènes où on se voit ne pas avoir été gentil, ne pas, voilà, etc., etc., ou d'être méchant, etc., etc. C'est les phénomènes qui prouvent qu'on saisit un moi comme réel. C'est les caractéristiques, que ce soit j'ai pas été gentil ou j'étais méchant, voilà, etc. C'est les caractéristiques qui montrent qu'on prête une caractéristique justement à sa personne. Et si on prête une caractéristique à sa personne, ça veut dire qu'on saisit une entité à sa personne. Le sentiment de sa personne, ça s'énonce par un. On se conçoit moi, et sous-entendu, de façon implicite, parce que le mental nous propose toujours l'explicite et l'implicite. Donc si on a le sentiment de moi, implicitement, le mental sait, par discernement, pertinence innée, qu'on n'est pas l'autre. Mais on n'a pas besoin de voir la phase implicite, subconsciente. C'est comme, tant que le portable marche, on ne va pas l'ouvrir ou faire de l'électronique, vous voyez. Ça marche, hein. Puis si ça ne marche pas... On fait réparer, voilà. Donc le subconscient n'a pas besoin de dévoiler le subconscient, il a sa raison d'être, parce que on sera encombré, on exploserait, quoi. On ne pourrait pas fonctionner comme ça. Mais c'est simplement comprendre qu'il y a une dialectique mentale explicite, implicite. C'est le clé de la convergence, de la dialectique, et ça ne s'oppose pas, c'est les deux, parce que vide de réalité. faut toujours avoir cette vue hein, du sahaja, de la convergence, pour raisonner, ne pas prendre brut comme ça, de pomme, ah, je suis méchant. Non, si on a cette affirmation, je suis méchant, il faut se dire que le mental nous fait connaître ce qu'est la méchanceté. Et du même coup, on sait ce qu'est la gentillesse, oui. Mais si on voit par la force de la pratique, on regrette, des choses comme ça, puis on voit qu'un jour on a fait ça et c'était pas sympa, etc. Il faut aussi voir qu'on prête une caractéristique, je suis méchant, et on voit bien qu'aujourd'hui c'est passé, cette caractéristique était inconstante, inconsistante. D'accord ? Ces caractéristiques, c'est ce qui recouvre l'idée qu'on saisit une entité moi. Le sentiment d'une entité moi se convainc qu'on a des caractéristiques en propre, des caractérités tsani. Et ça fait partie aussi des saisies illusoires. On saisit une caractéristique en propre, d'accord, et on va dire je suis ça, je suis ça, de toutes sortes de caractéristiques, je suis vieux, je suis laid, je suis jeune, je suis gentil, je suis méchant. C'est le je suis qui est le problème. On a un moment de méchanceté, on a un moment de gentillesse, et c'est co-émergent. Si on se sert à avoir un moment de méchanceté, dans le même moment, on sait ce qu'est la gentillesse. Donc des fois, il peut y avoir une sorte de réminiscence. Alors, on fait les forces normales, regret, ne pas réitérer, mais aussi on peut affiner pour réaliser la nature de la jhansa elle-même. Donc affiner l'approche de la vacuité d'une caractéristique. Sur ces caractéristiques, des fois, on a un regard psychologique, avec un jugement psychologique, une analyse, et on voit bien, ah, ça c'est l'orgueil, et on essaye de réparer ça, enfin, voilà, on fait bien des analyses psychologiques, hein, à chaque instant. Donc, quand on voit ces caractéristiques prises de façon saisie, intrinsèque, à sa personne, eh bien, un petit regard d'analyse psychologique, même pas besoin de méditer pour ça, mais surtout aussi que c'est le signe qu'on saisit le moi comme une entité propre. C'est là qu'il faut... L'analyse, ça va un temps, en situation éventuellement, mais il faut approfondir jusqu'à la saisie d'une entité. Dès que la conception du moi vient, on ne le prend pas comme un moment coémergent, même s'il est explicite, hein, on le prend comme une réalité propre. Cette conception du moi, elle passe inaperçue des fois, c'est après coup, justement, on se dit, ouais, j'étais au centre du monde, hein, voilà, etc. Vous voyez, et sur la base de cet orgueil, on avait une quiétude, ou un plaisir, une réjouissance, vous voyez, etc. Donc là, on fait toujours une analyse psychologique, etc. Mais après, c'est fouiller cette entité, ce sentiment d'une entité au moi, on ne la voit pas. C'est après coup, on voit les travers que ça entraîne. Et simple regard d'analyse psychologique, on voit que c'est plus ou moins bien, voilà, etc. Donc il faut affiner. Si on reste sur juste une vie psychologique, on va aussi entrer dans des procès psychologiques, bien, pas bien, etc. Et surtout, ça n'a pas de fin. On vise vraiment l'absence d'essence dans le moi, l'absence d'entité, ou l'absence d'un moi originel. C'est pour ça que le mot personne convient très bien. Ça vient du mot persona qui veut dire masque. Alors l'idée de masque, ça fait un peu hypocrite. Non, c'est pas des hypocrites. On n'est pas hypocrite, c'est simplement le moi étant un concept, et ben, le mental compose au gré de la personne qui est en face, au gré de la situation, etc. Parce qu'il marche bien, hein, la conscience mentale fonctionne très bien. Et nous, on ne l'entend pas comme ça, on voudrait un moi absolu. Il y a des gens même qui cherchent le moi, hein. Qui suis-je ? Le moi est en composition constante, enfin constante dans le sens, son inconsistance est la nature du moi. Et on ne pourra pas lui assigner une fonction, un caractère, etc. Ça nous échappe. Donc des fois, on capte bien ce sentiment du moi, il est là, hein, ce savoir être moi. Automatiquement, penser juste, c'est convergent. Après, cherchez pas l'autre part cachée. Ça va. Sinon, on va embrouiller l'esprit mental, etc. Mais savoir qu'il y a toujours une dialectique. Si je pense à droite, le mental s'est d'abord fait une convergence droite-gauche, parce qu'il n'y a pas de droite en soi, et ainsi de suite. Vous voyez, c'est la base.
C'est convergent à quoi ? Le moi est convergent à l'autre, c'est ça ?
Au sentiment de ne pas être l'autre. Ne pouvons pas être l'autre. Il y a une conclusion spontanée, d'immédiateté, donc moi. Ce n'est pas le don dû à la soif qui se fait une surenchère d'existence. C'est le don du cogito de Descartes, quoi. Pensant donc existant. Il y a deux dons, hein, le don de la saisie. Hein. Je saisis ça, ou alors je vois ça, si je le vois, donc je suis le destinataire de ça, c'est lui qui me fait connaître à moi. Oui. Le don de la soif. Quoi. Quand on a la conception de l'autre, hein, notre conscience tourne son attention hein, sur écouter quelqu'un d'autre, c'est un concept qui est interne à la cognition. Et pareil, l'aspect implicite, c'est que je ne me prends pas pour l'autre. Donc l'autre se distingue, c'est ce qu'on appelle la clarté, il se distingue. Mais sur la base de l'autre, on va y mettre des caractéristiques propres, qui donnent l'idée que l'autre est une altérité, c'est un autre en soi, indépendamment de la subjectivité, alors que c'est faux. On peut se faire que des idées de l'autre. Comme on se fait déjà des idées de soi. Donc des fois, il peut arriver des réminiscences comme ça, en pratiquant la chasse à droite. Ben, on applique les quatre forces. Le regret, vous se méfiez du regret, on peut s'apitoyer dans le regret. Genre, vous voyez, le syndrome du pénitent. Et la soif va s'accaparer de ce regret parce qu'on se sent sincère. Et on va se faire. Flageller, etc. Même s'il n'y a pas de fouet, hein, il y a des personnes qui se flagellent constamment. Hein, et qui estiment après qu'ils ne méritent rien. Voilà, c'est un syndrome assez fréquent. Donc le regret, c'est une chose, mais il ne faut pas s'apitoyer. Parce que le regret, au moment de la mort, il faut juste, c'est regret, voilà, c'est basta, quoi, basta. Et faire confiance, karmiquement parlant, le regret fait que c'est absous, karmiquement parlant. Et nous, si on rajoute l'incertitude que c'est absous, ben on va faire une psychologie du regret. Vous suivez la différence? Et là, c'est s'apitoyer sur son sort, hein, etc., s'interdire plein de choses, etc., douter qu'on mériterait les choses, et attendre l'extrême punition, quoi. Et puis après, toute chose qui va être vécue très lourde, on va dire, j'ai bien mérité, quoi. Et là, on n'accepte pas de mériter des cadeaux, par exemple, mais on va dire, je mérite une punition. J'ai un accident, tu sais, avec tout ce que j'ai fait dans cette vie, t'as un accident parce que t'as picolé, ou t'étais inattentif, ou t'avais un connard en face de toi. C'est bête, mais c'est comme ça. Donc c'est une force, le regret, mais il ne faut pas en abuser. L'excès tue la vertu. Après, il y a la force de ne pas réitérer. Donc là, c'est disposer une volonté. C'est de mon ressort. C'est bon, je ne réitère pas. Quoi. Le regret fait expérience et voilà, ce qui permettra de réfréner les impulsions, etc., d'éviter d'être sans attention, sans considération de l'autre, de soi, et ainsi de suite. Et il n'y aura plus lieu de regretter. C'est ça l'idée. Après, réitérer l'objectif, la confiance, on dit, au refuge. Et puis, affirmer la pratique de Vajrasana. Ben, c'est bien, finalement, ça marche. Voyez. Donc je vais continuer jusqu'à aller à réaliser que la nature du moi est de même nature que Vajrasana. C'est une gnose, et le moi est l'émergence du gnose, en toute coémergence naturelle. Donc ça, c'est valable tout le temps, hein, je me répète. C'est l'objectif. Réaliser la vacuité de nos illusions quand le sentiment du moi s'élève. Il ne faut pas jeter le bébé et l'eau du bain. Si on tente de ne plus avoir le sentiment du moi, et certaines personnes peuvent y arriver, mais ils sont en HP, quoi, oui. Ou des troubles de la personnalité, etc. etc. Donc il faut rester naturel, etc. Et utiliser les trois types de vœux. Éthique, empathie, vue pure. Guru Rinpoche dit, si ces trois types de vœux sont, on les prend dans leur ensemble, c'est impossible d'endommager. Il y a toujours une sphère de vœux, enfin une activité d'un des trois vœux, qui fait que rien n'est endommagé. On va rester honnête et en lien à notre nature fondamentale. Si on prend que des vœux d'éthique, déjà l'éthique n'éveille pas. Et on risque de ramer, quoi. Et puis même tourner au fondamentalisme. Et donc il y a une dégénérescence où on confond éthique et moralisme. Est-ce que vous avez des questions sur les Dhammasikhs, les Samayas? Ça peut être complexe, donc hein, moi ce que je vous propose, c'est de vous engager juste à la vue pure. Vous engagez pas avec moi, hein, vous faites ce que vous voulez. Hein. C'est ce que je préconise pendant une initiation. Parce qu'après, j'ai récité cette fois le mantra, c'est bon. Vous voyez? Et là, c'est du ritualisme. Il faut être imprégné de la vue, imprégné de ce que veut dire Vajrasattva. C'est beaucoup plus fécond. Après, bien sûr, la pratique est importante pour se confronter à notre manque de concentration, à l'attention, à nos délires, nos fantasmes, etc.
J'ai une question, mais j'essaie de la formuler.
Vas-y, alors Myriam.
Non, mais vas-y.
Non, vas-y, vas-y.
Elle va réfléchir pour formuler.
Ouais,
elle en formule 1.
Moi, j'ai une question sur le moi. Et si on abandonne la saisie sur le moi, en fait, on rentre dans l'idée que le moi est une construction de l'esprit, en fait, et que ce qu'on croit sur soi-même, les projections qu'on a, les élaborations, les qualités qu'on se donne, les défauts, tout ça, enfin, on lâche tout ça. Voilà. Quand tout ça est lâché, qu'est-ce qu'on trouve?
Alors, lâcher, ça veut dire réaliser la vacuité. Hein, ouais. Mais on ne trouve pas la vacuité, ça veut dire que ça serait quelque chose.
Oui. D'accord. C'est la vacuité de la vacuité.
Non, non plus. Hein. Et même la vacuité de la vacuité, tu l'as réifié
mentalement. Oui,
d'accord. Donc, quand tu as lâché le fait que tu ne prends pas le moi pour quelque chose, justement, mais que que c'est conçu, construit, si tu veux, hein, d'accord, conçu, d'accord, et bien, tu as automatiquement lâché la vacuité de l'illusion d'avoir pris pour réel. Ça va ? On ne réalise pas la vacuité, on réalise la vacuité de quelque chose. Donc on réalise la vacuité d'avoir prêté une réalité à un concept, en l'occurrence, moi. Quand ce moi apparaît à l'esprit, il est conçu. Et nous, on ne le voit pas comme étant conçu, on le voit comme étant réel. Tu vois la différence? Donc si tu t'aperçois que, voilà, bah, tu l'as vu émerger comme étant un concept, il n'est pas vide. Il n'est pas vide. Il s'est vidé de ce que tu lui prêtais comme étant réel. Il s'est vidé, enfin, il reste ce qu'il est. Mais toi, tu as oublié de le saisir pour réel. C'est ça qu'on appelle abandon. J'abandonne mes saisies. Mais pas à force de concentration, on ne peut pas abandonner la saisie. C'est simplement on oublie. On fait des rappels sur quelque chose et on en oublie de saisir. Cherchez pas à abandonner la saisie. C'est pour ça que la concentration, c'est vraiment le... Voilà. C'est comme quelqu'un qui a le vertige, il est tellement focalisé, il suit le bonhomme, quelqu'un, Et puis à un moment, le bonhomme, il marche sur un tronc d'arbre, comme ça, il a faussé. Hein. Et puis l'autre, il parle. Oui, oui, non, non. Et puis après, il vient de voir qu'il a traversé une poutre. Ouais. Il en a oublié d'avoir le vertige. On dit abandonner, mais par la force de la concentration, la force de notre focalisation, eh ben, c'est abandonner, mais on ne peut pas dire, tiens, je prends ça et j'abandonne. Tu ne peux pas. C'est une illusion. Lâche prise, quoi, c'est ça. Pang, pang, toc. Pang, tu abandonnes, tu obtiens. Mais effectivement, tu as raison. Donc, une fois qu'on voit que c'est construit, je préfère dire conçu, ce qui est connu est conçu. Donc il y a bien pertinence du connu. C'est ce qu'on appelle clarté. Le concept de moi est clair, c'est-à-dire il se révèle comme explicite. Et il peut se révéler justement pour ce qu'il est, un concept. Dans ce cas-là, ne te pose pas la question, la vacuité d'avoir pris pour elle est abandonnée. Tu en as oublié. Tu as réalisé la vacuité. Mais on ne sait pas qu'on réalise la vacuité. On ne réalise pas la vacuité. Quelqu'un qui me dit, j'ai réalisé la vacuité, je dis, ouais, de quoi? Ah, mais j'étais dans un grand tout, machin. Non, là, tu es dans ta torpeur. C'est une anesthésie que tu as vécue. Donc, attention, la vacuité n'est pas quelque chose. C'est de fait, après coup, ah, c'est ça, ben oui, c'est ça. J'ai vu le moi construit, émerger, et simplement être une évidence, évidée du réel que tu y mettais. Donc une fois qu'il y a ça, ça veut dire que déjà toutes les caractéristiques ont été aussi évidées. Les caractéristiques, ce n'est pas les caractéristiques en tant que telles. C'est la caractérité, c'est prendre une caractéristique en propre qui désignerait ce qu'est moi. Tantôt gentil, ah, le moi est gentil. Moi, je suis gentil, voilà. Et on voit bien que sinon, ces caractéristiques, elles sont inconstantes, elles ne peuvent pas avérer le moi définitivement. Donc une fois que on lâche la caractérité, on lâche ce mécanisme de synthèse, parce qu'on est toujours en recherche, qui suis-je, comment je peux me définir, etc. On arrive à même à se dire, je suis café. On est tellement avide de définition, donc ça on lâche, et après on lâche le fait que le moi est réel, et on s'aperçoit qu'il est conçu. Donc c'est pas réaliser que le moi est vacuité, c'est réaliser la vacuité de nos illusions. Et le moi est un concept, et il restera ce qu'il est, un concept, mais ce n'est pas un pied-aller, ce n'est que du concept, non. Il y a une magie dans ce fait-là. L'émergence du moi, il est une autre clarté due à la vacuité. D'accord ? Il y a une révélation. Qu'est-ce qui va se révéler ? Eh bien, ce qu'on a fait avec les cinq derniers Bouddhas, cinq intelligences. La sagesse d'équanimité accompagnée par ce qu'on appelle la paramita de la générosité. Il y aura des qualités de non-peur. Donc ce n'est pas un néant, c'est pas l'anéantissement du moi. On n'aura pas une déstructuration de l'individu. Au contraire, il y a une émancipation, un épanouissement, etc. Si on sent qu'il y a une déstructuration de l'individu, faites confiance à votre conscience, ou calmez-vous, revisitez intellectuellement ce que vous entendez par vacuité, etc., parce qu'il peut y avoir un gros fantasme dans la vacuité. Parce que la vacuité peut servir à quelqu'un qui a soif d'inexistence, de s'anéantir, sans avoir à se suicider. Donc je vais me réduire à néant, sans avoir à me suicider. Mais la soif d'inexistence, c'est un diable hein, qui peut nous dire je vais méditer jusqu'à l'extinction du moi, je ne vais plus avoir de pensée, je ne vais plus me penser, etc. Et bien c'est la soif d'inexistence, hein, qui souhaite le néant, que le néant existe. Néant, ça veut dire personne, il n'y a personne. À un moment, ben, s'il y a un terrain favorable, ben, effectivement, il y aura des structurations et des catastrophes. Psychotique, carrément. Donc il faut vraiment étudier intellectuellement pour avoir une certitude intellectuelle, quitte à demander confirmation. Si on a mal conçu, ben, il faut le corriger. Parce que si on va en méditation et qu'on arrive à s'abstraire, faire des mécanismes de torpeur subtils, abstraction sensorielle, etc., ce qui est conçu a un logos qu'on appelle le verbe imaginal. quand on médite et qu'on reste dans l'hypovigilance, c'est comme du rêve éveillé, donc c'est, on ouvre la boîte de Pandore, c'est la porte du saint qui va arriver. Il n'y aura aucun contrôle. Est-ce que ça répond?
Oui.
Dans le Dhammapada, c'est un terme pali, hein, c'est un sutra du Bouddha Sakyamuni. Et donc dans le Dhammapada, donc Dhamma c'est Dharma, d'accord, le sutra du Dharma, Sakyamuni dit, on part du moi, on arrive au moi. L'hindouisme a raison, il y a un Atman, il y a un soi, mais on n'est pas d'accord sur la dénomination, il y a des nuances. Mais dans l'hindouisme, il y a l'Atman et réalisation de l'Atman, c'est valable. Après, tout est question de définition. Dans notre philosophie Shentong, Yogacharya, Shentong, Sahaja, des penseurs tibétains, ils ont ramené ces enseignements au Tibet et parlaient du grand soi. Ça faisait scandale. Et après, ils ont été traités d'hérétiques par les Gelugpa de l'époque. Et il y a eu même des autodafés, des monastères brûlés de l'école Jonang qui prenaient le Shentong, le Sahaja. Parce que entendre le grand soi, pour certains, c'est un blasphème, quoi, pratiquement. L'important, c'est la définition. Et Dhammapada, c'est vraiment... Le Bouddha, il dit, on part de moi et on arrive au moi. Qui c'est qui s'éveille quand Sakyamuni s'éveille? C'est lui. C'est moi. Il dit, je me suis éveillé. Il conçoit le je, parce qu'il sait bien que c'est pas l'autre. Il sait pas... Il y a des gens aussi qui disent, oui, quand il y a l'éveil, il n'y a personne qui sait être éveillé. Mais si tu te sais éveillé, et tu ne te sais pas avoir vu que tu as réalisé la vacuité, par contre, tu vois de fait que tu as oublié de saisir, donc tu as réalisé la vacuité, mais tu te sais éveillé, heureusement. Tous les éveillés, ils disent, oui, je suis éveillé. Et quand on n'est pas éveillé, on dit, je ne suis pas éveillé. Mental, c'est juste le nom d'une nature pour dire que ce n'est pas matériel, ce n'est pas biologique, ce n'est pas moléculaire, ce n'est pas atomique, c'est mental, c'est de l'ordre de l'idée. Effectivement, le moi est une idée. On se fait une idée du moi. Je ne sais pas pourquoi on en veut à ce terme mental. Même dans l'hindouisme, on parle du mental. Il faut en vouloir juste à nos illusions. Tu as formulé?
Non, mais je vais me jeter à l'eau quand même. Non, mais j'écoutais.
Ah oui. Tu m'aurais dit oui, j'aurais dit. Ouais, tu m'as fait dit.
Non, je voulais m'assurer que j'avais bien compris, oui, la vue pure que je posais sur, oui, ma genre, celle-là. Et je peux rebondir sur le moi qui est, j'allais dire, créé par l'esprit. C'est pas une création qui
est... L'esprit n'est pas quelque chose.
C'est pas quelque chose.
Donc, c'est pas un créateur et ouais, il y aura une créature. Oui, c'est le nom d'un fonctionnement.
C'est un fonctionnement qui est réactualisé en permanence.
Qui est une usine à concept.
Ouais. Il est conçu.
Donc le moi est un concept.
Ouais. Concept.
Mais qui a sa valeur, ouais, sa validité et qui est très important.
Je peux rebondir là-dessus. Vajrasattva, qui nous accompagne, qui est cette part de base, qui traverse toutes les vies, tous les bardos, justement, quand on change de bardo, qu'on reprend une nouvelle vie, à partir de c'est une capacité, quelque part, Vajrasattva, c'est une capacité, à partir des facultés sensorielles et tout, de reconcevoir un nouveau moi, un nouveau mandala, quoi,
de reconcevoir
tout ce qui se présente, les nouveaux phénomènes, à travers les facultés, c'est bien ça. Je peux le voir comme ça.
Oui.
Parce que si tu veux, j'ai eu cette image, c'était à partir de la cloche et du vajra. J'ai vu ça comme, j'allais dire, génésiaque. Enfin,
oui, voilà, c'est ça. La cloche et le vajra, c'est... Comment ? C'est une jonction.
Oui.
D'accord ? Alors, on met comme ça, mais c'est... Le monde est fusion, pénétrant, pénétration, pénétrant, pénétré. Pénétrant, pénétré. Contenu. C'est que des dialectiques, c'est ça. Tu vois ? Implicite, explicite. Exclusion, inclusion. Tu vois, pour citer quelques fonctionnements dialectiques.
Oui, il faut que je
réfléchisse. Oui. Mais une nuance à apporter, c'est que Vajrasattva est immuable, omnifonctionnel, c'est la gnose. Donc la faculté cognitive, donc, de concevoir, puisqu'il n'y a rien de réel, d'accord, elle est continuum. Mais les sphères d'expérience.
Ces sphères d'expérience.
Ces sphères d'expérience, c'est ce qui t'est donné aux 8 consciences. Et ces sphères d'expérience proposent 6 familles d'apparence pour 6 facultés sensorielles. 6 familles d'apparence, des apparences auditives, visuelles, etc., et mentales. D'accord ? Il n'y en a pas d'autres. Donc ça, c'est un continuum non-né, non-cessant, etc., qui fluctue, c'est-à-dire il s'adapte, c'est l'opportunité, aux circonstances et à la loi de l'interdépendance, bien sûr. C'est pas par hasard, ce sera pas hasardeux, mais ce sera pas figé, fatal, ça sera causal. D'accord, voilà. Maintenant, tu disais qu'à un moment, on passe d'un bardo, et puis après, hop, on reconstruit, etc.
Oui, en fait, non, c'est un continuum.
Ça, quand il y a extinction et reconstruction, ça veut dire qu'on était dans la saisie. Oui. La soif de prendre pour elle nos illusions. D'accord ? Voilà. Oui. Le but du yoga, le but des pratiques, c'est réaliser la nature de Vajrasattva.
Oui.
D'accord ? On sera en continuum.
En continuum. Et non pas en...
Voilà.
D'accord.
Mais ouais, en attendant cet éveil, cette réalisation, si on a une force de caractère où on est constamment à réfléchir ce qu'est Vajrasattva, après ça vaut pour tous les autres Yidam. D'accord. L'effort qu'on fait pour Vajrasattva, si un jour on vous fait pratiquer Tara, c'est la même chose. Il y a une petite spécificité, bien sûr, qui change, sinon il n'y aurait pas autant de divinité. Mais la force de caractère qu'il y a à aller chercher à comprendre, c'est énorme. Ne vous épuisez pas à chercher à comprendre. Ne cherchez pas toujours à aboutir. Vous faites des efforts, vous musclez votre intellect et votre esprit, si vous voulez. Ce qui fait que, même si on n'a pas réalisé, et qu'on est, en quelque sorte, absorbé dans le coma de la mort, partez en confiance que la première chose que vous allez avoir, c'est vos obsessions, Vajrasattva. Vous comprenez ? C'est-à-dire, un automatisme va remplacer un autre automatisme. Mais là, on crée un automatisme vertueux. Vertueux, si on ne se trompe pas, justement, intellectuellement, philosophiquement, c'est vertueux. Parce qu'on peut aussi se tromper sur Vajrasattva, une réalité qui nous attendrait après notre mort. Bon, tu vas exploser de colère, ça va être une parano. Quoi. La déception des croyants va être parano. Hein. Je plains beaucoup ceux qui croient, hein, qui attendent, hein, comme ils attendraient papa, maman, quoi. Le Père Noël. Donc, effectivement, peut-être, dans le pire des cas, voilà, il ne faut pas être anxieux non plus, hein, on va mourir, on va perdre un coma, hein, comme on s'endort, voilà. Donc déjà, confiance que quand on va se réveiller après la mort, on ne sera pas déçu. On ne nous a pas baratiné, on n'a pas fait des promesses religieuses.
Il faut quand même devenir obsédé par Vajrasattva.
Mais voilà, et faire confiance que si voilà. Si on s'est imprégné de Vajrasattva, on a engrammé, intégré le réflexe, ne serait-ce que aspirer. C'est pas le réflexe d'avoir pris refuge, c'est le réflexe d'aspirer. D'accord ? Eh bien, c'est un ressort, un tendeur, un élastique, hein, qui va être tendu. La mort n'aura rien à faire, elle ne pourra pas détendre cet élastique. La mort, bon, c'est ouais, extinction des feux, hein, d'accord ? Paf. Mais l'élastique va repartir. Oh, vous la relâchez. C'est la puissance du mérite, la maturation, la force d'avoir enduré des efforts, et même si c'est difficile, j'endure, si c'est difficile, j'essaie de détendre parce que je saisis quelque chose, mais cette obsession, hein, va être vertueuse au moment de la mort, après la mort. Alors on peut avoir des signes d'avoir engrammé, c'est avoir des automatismes où on se réveille et on pense à Vajrasattva. Des fois, on peut avoir même dans la bouche le mantra qui sort. Et des fois, c'est aussi dans le rêve, vous rêvez, vous récitez le mantra. Ça veut dire que c'est engrammé dans votre souffle imaginal, le ça est impacté. Donc effectivement, il y a des phases, des bardos, avec des phases de résorption, etc. Mais on peut aussi comprendre que ces bardos sont une illusion. C'est-à-dire se saisir comme moi vivant, et puis, ah, la mort. Donc, ce qui va mourir, c'est le corps biologique, et encore, ça ne veut rien dire, mourir, pour un corps. Il se dégrade, biodégrade. Mais lui, le corps ne sait pas que c'est une biodégradation. Il poursuit sa nature transitoire biologique. Il le fait en ce moment, il se biodégrade, d'accord, depuis le moment même de la naissance. Donc voilà, donc lui, il continue sa route, d'accord, et vous, vous continuez votre route. Vous, c'est celui qui a le sentiment d'être moi, c'est pas le corps, c'est l'esprit. C'est sa fonction. Le corps n'a pas une fonction psychique, il y a une fonction organique et biologique. Et bien sûr, il y aura mort biologique, ça on ne pourra pas l'empêcher, ça ne dépend pas de nous, comme disent les stoïques. Et même Sakyamuni est mort, voilà, etc. Il n'y aura personne qui pourra survivre à une rupture biologique. On peut avoir une pleine présence de se concevoir et faire usage du concept. Puisqu'on sera même en train de dire « je meurs ». Donc la machine à concept ne meurt pas. Vous me suivez ? Puisque ce « je » est conçu. Donc si tu as appris que ce « je » est conçu, qu'il a une validité, eh bien, au lieu de vous... obstiné, je meurs, bah, tu la crées, la mort. Au lieu de dire je meurs, je reste présent, hein, je suis de la nature de Vajrasattva, etc. J'ose espérer, parce que je n'ai pas cette expérience, puisque je n'ai pas souvenir d'une mort précédente, mais j'ai cette expérience par la méditation. Donc par la méditation, on passe en la nature du continuum, où on voit bien que la vie biologique n'est pas inféodée à la vie psychique. Il y a une autonomie fonctionnelle. Parce que tant qu'on ne meurt pas, il y a une collaboration. Cette collaboration, c'est les expériences qu'on peut avoir dans Samatha. Et ça, il faut mettre de côté. Mais à un moment donné, on est à même le continuum. Et bien, si on maintient ça, quand il se passera réellement la mort, je vais y faire, parce que j'en ai chié toute ma vie, ça m'a coûté cher les stages, etc. Autant que ça soit amorti, non, c'est vrai. Ou alors il va me rembourser, quoi. Satisfait ou remboursé, quoi. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'essayer, on va pratiquer, et c'est même plus pratiquer, on va exécuter la sadhana. Et vous ne sortez pas votre texte, hein, je vous en fais, ne faites pas la connerie. Bon, ben, je meurs. Mes pages. Non, d'accord. On l'exécute, c'est pour ça qu'on s'entraîne, on s'entraîne de fait, mais il faut à chaque fois se dire, c'est ma session finale, je m'exécute. Vous voyez, je m'exécute, ça a deux sens, hein, d'accord. Je tue mes saisies, hein, je me tue, voilà, et je me tais aussi, hein, voilà, etc. Et là, alors là, c'est le top d'éveil, c'est-à-dire, il n'y aura pas un « je meurs » qui s'affirmera, parce que la mort, il faut s'en souvenir, c'est un facteur mental. Ce n'est pas un état qui nous tombe dessus. C'est un facteur mental, et que on cautionne qu'il y a bien un « je » qui s'anéantit, bah, la conscience est gentille, elle va te faire ce que tu veux. Et si on fait le yoga du sommeil, le yoga de clair lumière, on voit bien que le sommeil est aussi un facteur mental. Et on peut avoir des moments où il s'avère que le corps dort, il ronfle même, etc. Et la conscience, je me sais, ronfler. Non, c'est reste que ça. Vous l'avez fait avec l'alimentaire, vous l'avez fait, cet exercice. Mais on dit, ouais, je suis bien. Mais c'est pas puéril, hein, c'est important. La fonction psychique peut se savoir que le corps se repose. Il est livré à lui-même, laisser le corps faire ce qu'il sait faire. Il pète, il rote, machin. Dans la méditation, ça peut être ça aussi. Hein. Il peut avoir ça digère, machin, etc. Et vous restez dans la concentration, c'est-à-dire en le continuum, d'accord, fluctuant de moi, l'autre, machin, etc. Mais sans saisie, et dans le continuum, vous avez pris le train en marche. On prend le train en marche, mais je ne reste pas dans le véhicule qui est en train de brûler, quoi. Et le train en marche, c'est l'aspect Vajrasattva, c'est le Nirmanakaya, l'idée de corps. On garde l'idée de corps. C'est cette idée de corps qui est résurrectionnelle, comme tu as bien expliqué. À partir de Vajrasattva, mais où ça peut être Tara et tout, ou le corps Vajra en yoga, une trame immuable qui se relève, mais aussi qui peut ne pas se relever parce qu'on ne l'a pas descendu. Oui. D'accord ? Ça va ? À notre niveau, il faut s'estimer que le réflexe ressurgit. Ressusciter, c'est au fait, Ah ben bon, je me suis endormi, voilà. Et donc là, il faut vraiment refaire l'idée corporelle. De toute façon, le corps, l'esprit va faire. Mais soit on laisse l'esprit faire dans l'impulsion, on va avoir une idée corporelle de nos impulsions. Et ça va déjà être une propension au devenir, au pardon du devenir et à la naissance. D'accord ? Donc il faut tout de suite passer en mode imaginaire. C'est là qu'il faut éviter d'avoir des miroirs parce qu'on va avoir l'image ou une absence d'image. Mais si on a une image, c'est une image obsessive du souvenir qu'on a de notre corporité. Donc il faut avoir une image de Vajrasattva. Ne serait-ce que l'aspect. Avec, bien sûr, la symbolique, ce sera encore mieux. Et ainsi de suite. D'accord. Si on est vraiment mordu par les tantras, il faut faire ça. Si c'est yoga, c'est autre chose, mais voilà.
Ce que je trouve difficile en tantra, c'est d'aller... c'est de générer à l'extérieur. Ça me perturbe, cette histoire d'extérieur et d'intérieur.
Ben, commence par le daké. Générer d'une qui est, c'est pour être témoin d'un fonctionnement qui conçoit l'autre. D'une, c'est traduit en face, mais ça veut dire l'objet cognitif. Et daké, c'est concernant le sujet. Dak, c'est le moi, dak. Je suis dak. Hein, qui est le même terme pour dire dakpo, maître. Hein, mais je suis maître de moi, je m'appartiens. D'accord ? Mais je suis prêt à aucune réalité, je joue aux illusions, les concepts, je compose selon les circonstances, voilà, je m'associe au fait moi papa, moi maman, moi fils, moi. Le moi est inconstant, d'accord ? Mais il est fonctionnel, il a des fonctions, des rôles, des personas. Il faut commencer, si ça nous est plus simple, le daké, tu fais le daké. Le dunké, c'est juste pour élaborer quelque chose. Ici, là, c'est un tantra où on commence, c'est un guru yoga. Donc, on projette une idéalisation, ça devient un objet. Ensuite, on fait en sorte que l'objet va nous initier avec un écoulement, nous purifier, pour finalement, l'objet va nous renvoyer à nous-mêmes. C'est un transfert à l'envers, quoi. On fait sciemment un transfert sur un objet, le dune, et puis sciemment, on va mettre en douceur l'idée qu'il y a une initiation. C'est un fantasme, un écoulement, et qu'on devient nous-mêmes Vajrasattva. Donc on se fait un transfert, une introjection plutôt qu'une projection. Donc c'est pas de la vénération à une divinité hein, qu'on fait, d'accord ? Mais on peut jouer là-dessus. Ça va ? Pour se rapprocher de sentiments, puis à un moment, tac, on voit que c'est conçu. Et si c'est conçu, c'est clair, clarté, c'est révélation. Il y a des qualités. Il ne faut pas penser en pialé. Hein, ce n'est que conçu ou symbolique. Hein, ce n'est que symbolique. Non, c'est merveilleusement symbolique. C'est-à-dire une image qui est chargée d'une réalité au sens spirituel, enfin... une intelligence.
Oui, finalement, ce qui est magique, c'est l'ensemble. C'est d'arriver à que le mental puisse créer, justement, générer cette image chargée.
La magie, c'est ça. À défaut de réalité, l'esprit conçoit. Mais il conçoit en toute justesse, en bienfaisance. Et nous, on est tordus. On ne voit pas que notre propre esprit est un fonctionnement de bienfaisance en vertu d'être vide de la réalité qu'on lui prête. Et c'est merveilleux, quoi. On peut concevoir, après, bien sûr, il ne faut pas se prendre au sérieux, hein. C'est conçu pour percer des illusions, percer des abcès d'illusions. D'accord ? C'est pas pour se prendre pour Vajrasattva ou quelqu'un d'autre. Donc, vue pure, c'était le début de ta question. Pure, c'est-à-dire enlever la discrimination sur nos perceptions. dans vue, il faut entendre mode de perception. Donc l'agrégat perception. Enlever la discrimination, il ne restera que le discernement. Quand on fait une petite analyse dans un relationnel, on pense à quelqu'un, et puis on essaye de, justement, je pense ça de cette personne, et puis on fait une analyse. Est-ce qu'elle est vraiment ça? Ben non, c'est ce que moi je pense d'elle, parce qu'elle a fait ça, etc. Tic, voilà, on le fait bien, on sait bien que... Et donc tu purifies la perception que tu as de tes discriminations, des étiquetages, et éventuellement, parce que cette discrimination et cet étiquetage de l'autre va passer d'un mode jugement, je juge qu'il est ça, à un mode sentence, d'accord, verdict. Ce verdict, quand on agrée à l'autre, ou quand on agrée à nos jugements de l'autre, eh ben, ça va être récompense ou punition. Vous voyez? C'est la fin d'un verdict. Hein. Ou, ben, lui, il a mérité tant. Et il a mérité ma confiance. Il a mérité mes récompenses. Jusqu'à, au moment où il me décevra, oh ben, j'arrête de le sourire. Hein. Vous voyez? La récompense, c'était lui faire un sourire. Et là, on est vraiment binaire, etc. Et karmiquement, c'est grave, parce qu'on décerne. On s'octroie. C'est le juge partiel, quoi. C'est l'avocat véreux, le procureur, etc., acheté. Enfin, tout le monde dans le procès est véreux, quoi. Et le pire, c'est que le juge est partiel. C'est-à-dire que le juge est parti. Oui. On choisit récompense et punition. Donc, il faut aller au-delà de ça. Parce qu'on commence par la paramita de la générosité. Si par générosité on récompense, on rétribue, bon, c'est gentil pour celui qui reçoit, hein, mais karmiquement parlant, un jour ça va s'arrêter parce que, oh, au fait, voilà. Et la paramita de la générosité, si on suit la paramitayana, le véhicule des paramitas, dans les sutras, la voie du bodhisattva, le mahayana, c'est déjà énorme. Alors, dans la pratique de Tshu, on fait à la fois la paramita de la générosité, puis après on fait le yoga du pouvoir en même temps. On combine sutra et tantra dans la pratique de Tshu, mais on fait la paramita de la générosité. Et rien que la paramita de la générosité peut nous amener à la première terre bodhisattva. Ce n'est pas non plus à négliger. Ça s'appuie sur des anecdotes comme celle d'une vie antérieure à Sakyamuni quand il a donné son corps à une tigresse. Il a commencé par une petite discrimination, et il a commencé par un don avec discrimination. Il lui a donné que le bras. C'est comme Martin, c'est Martin qui donne la moitié de son manteau. Bah, il y a une petite part de discrimination, il aurait pu donner entier ou rien. Il faut mieux. Enfin, partager, je trouve que c'est stupide. Tu prends ou tu donnes. Ou tu gardes ou tu donnes. Mais. Ah, il y a deux cons là, avec deux moitiés de cons. Enfin...